Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Vincent Parisot. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à toutes et à tous. Oui, c'est RTL Soir, bienvenue. On est ensemble jusqu'à 18h30, l'heure à laquelle vous referez le match avec Christian Olivier. À la une, justement, l'actualité sportive en direct à Roland-Garros avec la finale dames remportée par la Tchèque Krejčíková, Isabelle Langer.
Oui, Barbora Krejčíková, 25 ans, l'a emportée face à la Russe Anastasia Pavlyuchenkova en 1h58. Pas une finale qui restera dans les annales, mais une finale gagnée en 3 manches. 6-1, 2-6, 6-4 pour cette jeune Tchèque qui a reçu la Coupe Suzanne Lenglen des mains d'une ancienne Tchèque devenue américaine, la grande Martina Navratilova.
Et on attend maintenant la paire française Mahut Herbert en finale du double. On retourne à Roland-Garros dans une minute. Dans l'actualité de ce samedi, la Corse menacée de pollution de nappes d'hydrocarbures d'une longueur d'environ 35 km menace l'est de l'île. L'accès aux plages dans le secteur a été fermé, la pêche interdite sur la zone. Pompiers, gendarmes, matériel anti-pollution sont mobilisés. Enquête lancée pour identifier le navire auteur de ce dégazage. On en parlera d'ailleurs avec le candidat écologiste Jean-Laurent Félicia, tête de liste de l'Union de la Gauche en Provence-Alpes-Côte d'Azur pour les régionales. Il sera tout à l'heure l'invité d'RTL Soir. À Strasbourg, un cluster au variant indien a été détecté au sein de la Haute École des Arts du Rhin qui a été fermée. 4 cas confirmés, 43 cas contacts. L'Agence régionale de santé du Grand Est annonce un plan d'action immédiat. Mais 30 millions de personnes ont d'ores et déjà reçu au moins une injection. La France est en avance de 3 jours sur le calendrier. Jean Castex vient de l'annoncer au moment où la vaccination semble tout de même marquer le pas. Dans l'actualité également, le premier tête-à-tête Joe Biden-Emmanuel Macron cet après-midi au G7 de Carbis Bay au Royaume-Uni. Un samedi de mobilisation pour les libertés et contre les idées d'extrême droite. 140 rassemblements un peu partout en France. À Paris, 9000 personnes ont défilé en présence de Jean-Luc Mélenchon qui lui a été enfariné. Le sport toujours avec l'Euro de football cet après-midi dans le groupe A. Le Pays de Galles et la Suisse ont fait match nul, un but partout. Depuis quelques secondes dans le groupe B, le Danemark affronte la Finlande. Et ce soir à 21h, Belgique-Russie avec des Belges revanchards depuis la dernière Coupe du Monde. Le quintet de Vincennes, 7, 6, 2, 11 et 3. Et puis le temps, Valérie Quintin, il fera encore plus chaud demain.
Oui, alors pas forcément demain matin. On va avoir une fourchette de 10 à 24 degrés entre Caen et Perpignan, 15 à Paris, à Annecy et à Nantes. Mais dans l'après-midi, fourchette de 20 à 36 degrés. Les 36 degrés seront pour Nîmes, Narbonne ou encore Port-Saint-Louis-du-Rhône. Il fera 20 degrés à Cherbourg, 25 à Lille, 29 à Paris et Bastia, 32 pour Lyon et 34 à Toulouse. Avec un ciel dégagé partout, pratiquement toute la journée. On a juste un petit peu de grisaille au lever du jour dans les Landes et vers le Pays Basque. Et puis sinon, quelques averses en montagne le soir sur les Alpes et sur les Pyrénées.
Merci Valérie. Et puis comme chaque samedi, rendez-vous avant 18h30 avec Mon métier, ma passion en compagnie d'Anaïs Bouissou ce soir qui va nous mettre des bijoux dans les cheveux. Enfin, si on en a.
RTL Soir, Vincent Parisot.
On va à Roland-Garros.
RTL. Roland-Garros 2021.
Oui, retour sur le central où la finale dame a été remportée, donc Jean-Michel Rascol, par la Tchèque Krejčíková.
Oui, c'est bien d'être un peu égoïste dans la vie. Barbora Krejčíková, avec un accent circonflexe sur le C et un accent aigu sur le A, était jusque-là une spécialiste exclusive du double. Effort partagé qui lui avait permis de gagner 2 tournois du Grand Chelem. La longiligne tchèque, qui avait très bien débuté cet après-midi en gagnant le premier set 6-1, a multiplié les fautes directes, a lâché le deuxième pour mieux débuter le troisième. De belles variations dans le jeu ont eu finalement raison de la russe Anastasia Pavlyuchenkova, 14 lettres, diminué par une contracture à la cuisse. 1 400 000 euros pour Barbora, la coupe Suzanne Lenglen remise par Martina Navratilova, le prix de la sueur, du talent et de ses 7 victoires en 2 semaines à Roland-Garros.
Et puis évidemment demain ce sera la finale messieurs entre Tsitsipas et Djokovic et d'ici quelques minutes le début de la finale du double messieurs avec notamment nos Français Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert. On ira à la fin du journal prendre des nouvelles de ce début de finale double avec nos Français. L'Est de la Corse se prépare donc à l'arrivée d'une pollution aux hydrocarbures, vraisemblablement liée au dégazage illégal d'un navire en Méditerranée. La ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, est sur place avec Annick Girardin, la ministre de la Mer. Elles ont survolé la zone. Un gros dispositif anti-pollution est mis en place par les pompiers et les gendarmes. D'ailleurs, les plages du secteur ont été fermées et la pêche est interdite, Hugo Hamelin.
Oui, tout à fait. Environ 10 km de littoral fermé entre Aléria et Solenzara sur la côte est de la Corse où il y a plusieurs villages vacances, plusieurs campings. Il y a également deux lacs, deux étangs qui ont dû être fermés par précaution en attendant cet épisode de pollution. Les deux ministres sont arrivés sur place en début d'après-midi après un survol en hélicoptère. Ils ont pu s'entretenir avec la cellule de crise mise en place par la préfecture de Haute-Corse. Alors la bonne nouvelle ce soir, c'est que les nappes de pollution s'éloignent des côtes. Mais il faut rester prudent car tous ces rejets d'hydrocarbures qui se sont fractionnés depuis ce matin ne sont pas forcément visibles depuis la surface. L'enquête pour retrouver le tanker vraisemblablement responsable de ce dégazage en pleine mer est pilotée par le procureur Michel Sastre du parquet de Marseille. Et pour le moment, il n'y a aucun suspect.
La démarche, c'est de rechercher l'auteur. Il va rechercher en analysant les trajectoires de tous les navires qui sont passés dans le secteur. Les observations qui peuvent être faites par les sémaphoriques. On va essayer d'analyser tout. Les navires possibles, leur passage, leur destination, savoir où ils sont. Et après, voir la pollution maritime. Si on n'a pas un flag, c'est toujours assez difficile. C'est quand même pas anodin comme comportement en plein mois de juin. C'est un comportement de voyou, ça, de bateau voyou, quoi.
Alors sur place, forcément, c'est la colère des maires des petits villages qui s'attendent à être impactés dans les heures, les jours qui viennent. Des épisodes de pollution maritime qui étaient parfois accueillis avec fatalisme les années précédentes, mais qui aujourd'hui ne bénéficient plus d'aucune tolérance. L'accès aux plages sur ce secteur de l'est de la Corse est donc impossible ce soir.
Merci Hugo Hamelin en direct, invité d'RTL Soir. Le candidat de la liste de rassemblement de la gauche et des écologistes en Provence-Alpes-Côte d'Azur, Jean-Laurent Félicia, pour ces élections régionales. Bonsoir, monsieur Félicia.
Bonsoir, monsieur Parizeau.
Merci d'être en direct sur RTL. Alors, certes, cette pollution ne touche pas directement la région PACA. La Corse, on le sait, sa propre assemblée territoriale. Mais quand même, votre région est en première ligne de ces pollutions maritimes. Comment réagissez-vous ce soir ?
D'abord, je suis solidaire de la collectivité territoriale de Corse, parce que si nous ne sommes pas touchés directement, la mer Méditerranée, vous le savez, c'est notre mer à tous. Et on se met aujourd'hui la corde au cou parce que aujourd'hui c'est un tanker qui dégaze, mais il faut savoir quand même que à chaque fois que 10 secondes s'écoulent, on a à peu près 250 à 300 navires de ce style-là qui parcourent la Méditerranée, puisque c'est 20% du trafic maritime, notamment lié au pétrole. Peut-être qu'il faut se poser la question sur cette société du tout pétrole qui nous menace, parce qu'aujourd'hui c'est le tourisme, mais c'est aussi la biodiversité. Vous parliez d'étangs et de lacs, l'étang de Diane, où on produit d'ailleurs des moules et des huîtres. C'est un étang, une zone humide précieuse pour la Corse, et notamment son attractivité touristique. Donc je crois qu'il faut prendre cet événement qui est, je dirais, dramatique pour la collectivité.
Et durcir les sanctions peut-être pour les navires pollueurs.
Vous savez que le fameux principe pollueur-payeur devrait s'appliquer, et je pense que les autorités qui trouveront, je l'espère, incessamment sous peu, l'auteur de ce dégazage, feront appliquer la loi, bien évidemment.
Alors, Jean-Laurent Félicia, on est à une semaine du premier tour des régionales. On parle évidemment beaucoup de la région PACA, mais on a beaucoup parlé de Thierry Mariani et de Renaud Muselier. Le dernier sondage, d'ailleurs, donne aux candidats du Rassemblement National 41% des voix devant le LR Renaud Muselier. 34%. Vous-même, vous êtes crédité de 15%. Bien sûr, ce ne sont que des sondages et ça ne présage pas du résultat de dimanche. Mais quand même, qu'envisagez-vous de faire dimanche 20 au soir si vous n'êtes pas parmi les deux premiers ?
Déjà, comme vous le dites vous-même, confisquer ce vote à la démocratie d'une région, c'est-à-dire un choix que feront les électrices et les électeurs, c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs. Nous apportons par notre discours le message que nous essaimons partout sur cette région magnifique, c'est le vote des solutions, c'est le vote de réparation, c'est-à-dire que face à nous, nous avons un bilan du candidat sortant qui démontre bien à quel point il n'a pas su barrer la route au Rassemblement National. Et puis vous savez, le Rassemblement National, aujourd'hui, partout en France, on manifeste justement pour défendre ces libertés auxquelles nous tenons chèrement. Le Rassemblement National, ce sont des idées qui s'égrènent depuis des siècles et des siècles, qui alimentent la haine, la discrimination, l'homophobie, le sexisme, bref, qui nous mettent dans une situation de peur et de haine entre nous, alors que nous avons tout à construire ensemble dans la paix.
Ça veut dire qu'il faut tout faire, selon vous, bien sûr, hein, pour éviter une victoire du Rassemblement national et donc le Front républicain, si c'était nécessaire.
Il serait temps, finalement, qu'on se pose les vraies questions, à savoir si les politiques publiques conduites depuis des années sont pas si stériles que ça, puisqu'elles n'amènent pas, justement, la baisse de ce Rassemblement national. Et parler de Front républicain, c'est comme mettre un pansement sur une gangrène. Il faut véritablement que nous agissions à la racine du mal, c'est-à-dire remettre de l'égalité, travailler avec cette jeunesse qui est en déshérence à la sortie d'un confinement où les lycées, les facultés se sont arrêtés, penser à l'alimentation et créer justement les conditions d'une souveraineté alimentaire. Vous voyez, tous ces sujets-là, je crois que ni Renaud Muselier, ni Thierry Mariani ne les préoccupent. Et moi, je veux m'emparer de ces sujets parce que je veux travailler sur le fond pour ma région.
Eh bien, c'est dit. Merci beaucoup, Jean-Laurent Félicia, candidat de la liste de Rassemblement de la gauche et des écologistes en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci d'avoir été sur RTL. Il est 18h10, alerte au variant Delta, le variant indien en Alsace. L'Agence régionale de santé du Grand Est annonce un plan d'action immédiat après la découverte d'un cluster de ce variant très contagieux au sein de la Haute École des Arts du Rhin. C'est à Strasbourg. 4 cas positifs identifiés, 43 cas contacts. Des opérations de tests et de vaccination ciblées sont prévues tout au long de ce week-end, Yannick Collant.
Oui, c'est visiblement lors d'un jury de fin d'études que les gestes barrières ont été complètement oubliés. Une des membres du jury, testée positive quelques jours plus tard au variant indien, d'où un dépistage massif jeudi dans toute l'école. 4 cas positifs, 43 cas contacts. Manon est étudiante en première année. Elle reconnaît qu'il y avait eu un certain relâchement, surtout en dehors de l'école.
Ceux qui sont cas contact, qui sont bien, bien isolés, là, pour le coup. C'est vrai que quand, rien que le nom variant indien, on rigole pas trop, quoi. C'est un peu flippant dans le sens où on est beaucoup aussi à se retrouver en dehors des cours. Voilà, on se retrouve sur le ponton, on a tous pas de masque, on est tous les uns à côté des autres, etc.
Les autorités de santé ont donc décidé de lancer dès ce soir une grande campagne de dépistage ici, autour des bars étudiants de ce quartier de la Cruteno. Des centaines de doses de vaccins ont également été libérées à la clinique Sainte-Barbe. Son directeur, Frédéric Léré.
Toute personne entre 18 et 30 ans qui aurait été depuis mercredi dans les restaurants, les cafés de la Cruteno, et évidemment les restaurateurs qui ont été en première ligne. L'objectif, c'est de casser une progression épidémique éventuelle.
Et l'idée, c'est de multiplier les tests et les vaccins pour enrayer tout redémarrage de l'épidémie avec le variant indien.
Un reportage signé Yannick Collant. Et puis, sachez tout de même qu'en France, 30 millions de personnes ont reçu au moins une dose de vaccin. Cette barre a été franchie et c'est Jean Castex qui l'a annoncé sur Twitter. Objectif atteint. Merci à ceux qui se mobilisent pour la vaccination. Cette barre des 30 millions de primo injectés était à l'origine attendue pour mardi prochain. Sachez aussi qu'au moins 2 personnes ont trouvé la mort à la mi-journée dans l'accident d'un avion de tourisme à Vambréchy dans le Nord. L'appareil avait décollé vers midi de l'aéroport de Bondu près de Lille. Il s'est écrasé près d'un parking dans une zone d'activité. Les victimes étaient originaires de Béziers et se dirigeaient vers Anvers en Belgique. Le parquet de Lille a été chargé de l'enquête. Allez, une courte pause et puis dans un instant, le premier tête-à-tête officiel Emmanuel Macron, Joe Biden.
Vincent Parisot, RTL. RTL Soir, Vincent Parisot.
Un petit coup de froid sur le G7 dans le sud-ouest de l'Angleterre parce que les remontrances des Européens à Boris Johnson sur le Brexit ont écorné l'image de bonne entente qui a été affichée par les dirigeants des grandes puissances pour ce premier sommet en présentiel depuis près de 2 ans. Des échanges qui ont donc tourné au dialogue de sourds sur la question du respect par Londres des engagements post-Brexit, notamment pour l'Irlande du Nord. Le Premier ministre Boris Johnson n'a pas hésité à dire qu'il passerait outre l'accord de Brexit si les Européens refusent de faire preuve de flexibilité. Et puis en marge de ces discussions assez tendues donc, eh bien ce G7 a aussi été l'occasion d'un premier tête-à-tête officiel entre Emmanuel Macron et Joe Biden sur place pour RTL. Marie Billon.
Les deux présidents se sont entretenus sous le soleil aux abords de la plage de Cardiff Bay, assis sur 2 chaises en osier. Le décor était parfait pour une rencontre qui se voulait amicale et en anglais.
Nous devons faire face à une pandémie et bien d'autres crises comme celle du climat par exemple. Et pour affronter tout cela, nous avons besoin de coopération. C'est super d'ailleurs d'avoir un président américain prêt à coopérer. Je pense que vous pouvez prouver qu'être un leader, c'est savoir travailler ensemble.
Les États-Unis, comme je l'ai dit, sont de retour. Nous tenons beaucoup, beaucoup à la cohésion de l'OTAN. Et je pense personnellement que l'Union européenne est une entité incroyablement forte et dynamique.
Mais le ciel n'est pas complètement dégagé non plus sur la question de l'influence de la Chine. Par exemple, Joe Biden veut adopter une approche plus ferme que ne le souhaiterait Emmanuel Macron.
Reportage RTL signé Marie Billon. En France, en ce moment, pas facile d'aller au contact hein, quand on est homme politique. Jean-Luc Mélenchon a été enfariné aujourd'hui. Le patron de la France Insoumise participait cet après-midi à Paris à la mobilisation pour les libertés et contre les idées d'extrême droite. Il était interviewé par la presse lorsqu'un homme lui a jeté de la farine par derrière. Il n'a pas été blessé. Et en s'époustant, eh bien, Jean-Luc Mélenchon a réagi plutôt calmement.
Non mais faites attention que la prochaine fois, il ne me balance pas un coup de couteau. Hein. J'en ai sur la tête.
Ouais, mais...
hein? Bon, ben ça va, je n'ai pris que de la farine, je suis vivant, tout va bien. Si vous ne me voyez pas plus ému que ça, c'est peut-être parce que ça aurait pu être pire.
Ouais,
sans doute. Il ne faut pas y donner une place plus grande que celle que ça mérite. Voilà, alors je dis à ceux qui ont des projets à mon sujet qu'ils ne me font pas peur et ils ne m'empêcheront pas de faire aussi longtemps que je peux ce que j'ai à faire.
Voilà, Jean-Luc Mélenchon, plutôt tranquille, vous l'avez noté au micro RTL de Marie-Bénédicte Allaire. C'était lors de la manifestation parisienne donc contre l'extrême droite. 9 000 personnes à Paris selon la préfecture. Au total en France, 140 rassemblements étaient organisés. À Lille, ils étaient plusieurs centaines de manifestants, donc mobilisation plutôt faible dans un contexte favorable au Rassemblement National à une semaine du premier tour des régionales. Reportage Antoine Decarde.
Au départ de la porte de Paris, environ 600 Lillois étaient présents pour une manifestation plutôt calme. Ils sont venus clamer leur inquiétude face à la montée des idées d'extrême droite.
Ah, vous voyez pas ce qui se passe ? La haine s'amplifie de jour en jour. Pour moi, il y a un gros problème, quoi.
On est très inquiets face à la montée de l'extrême droite. Leurs thématiques sont reprises dans les médias, partout. Ultra populaire chez les moins de 25 ans. Donc on est là pour dire non, non à l'extrême droite.
Et ils ont le sentiment de voir les idées de gauche absentes du débat public. Clara et Faustine ne se sentent plus représentées.
La société, voilà, aujourd'hui, ne reflète absolument pas les idées de gauche. On vaut mieux que ça, on est plus fort que ça et il existe d'autres choses. Enfin, on veut nous faire croire qu'il n'y a pas d'autres alternatives.
À l'initiative de la CGT et de la France Insoumise, ce rassemblement contre l'extrême droite a réuni l'ensemble des partis et des syndicats de gauche. Une union en place ici pour les régionales, mais que les militants comme Joseph ne voient pas venir à l'échelle nationale.
À gauche, je pense que beaucoup de gens peuvent être d'accord sur les choses sur lesquelles elles sont contre. En revanche, sur la question des objectifs communs, on en est encore, malheureusement, je le regrette, loin.
Et à moins d'un an de l'élection présidentielle, ils sont nombreux ici à penser qu'une union est le seul moyen de faire peser à nouveau la gauche dans le débat public.
Un reportage à Lille, signé Antoine Decarne. Allez, retour au sport, l'Euro de football. C'est parti depuis hier soir avec, vous le savez, la victoire en match d'ouverture de l'Italie sur la Turquie 3-0. Cet après-midi, dans le groupe A, le Pays de Galles et la Suisse ont fait match nul, un but partout. Le Danemark affronte la Finlande en ce moment dans le groupe B. Et puis ce soir à 21h, sur RTL et sur M6, Belgique-Russie, avec des Belges déterminés. Il faut dire que, battu en demi-finale de la Coupe du Monde 2018 par les Bleus, 1-0, et bien les Diables Rouges rêvent de revanche dans cet Euro à Bruxelles pour RTL. Caroline M.
Dès que l'on évoque l'Euro de football ici, le sujet arrive immédiatement sur le tapis. À la une de la presse belge hier, ce titre « Tous contre la France » et ce n'est pas Nathanaël et Vincent qui diront le contraire.
La France en finale. En finale ou peut-être en demi-finale.
Ça, ce serait le top.
Et être sacré champion d'Europe contre la France dans le temple du football, ça, ce serait génial.
On a envie de les retrouver, ouais, et de gagner.
Leur revanche, ils la veulent à tout prix. La défaite lors du Mondial il y a 3 ans, Mathieu et Aloïs l'ont encore en travers de la gorge.
Même moi qui n'ai pas pour le foot, si on gagne contre la France, incroyable.
Vraiment un grand soulagement, ce qui pour un peu les faire taire. Un grand plaisir, vraiment.
Plus d'amitié franco-belge pour Martin et Guillaume aussi. La victoire avant tout.
Contre la France, ça va être le dawa partout.
Si on gagne, c'est vraiment le bordel. On a envie de les mettre un peu à leur place, quoi.
Mais la majorité des Belges s'accordent sur un point. L'équipe de France est ultra favorite.
On a envie d'avoir cette revanche et en plus, on sait qu'ils sont vraiment très très forts et que c'est vraiment la meilleure équipe.
Il n'y a aucune faiblesse dans l'équipe de France.
Benzema, en plus, maintenant, ça pue quand même. Mais
sur un match, tout est possible. Alors oui, évidemment qu'on peut battre la France.
Voilà, évidemment, qui peuvent battre la France, les Belges. Caroline M, merci, Belgique-Russie, 21h, à vivre dans RTL Foot. Hein. Après, on refait le match et puis bien sûr à la télé sur M6. On retourne à Roland-Garros.
RTL. Roland-Garros 2021, Isabelle. Isabelle Langer.
On rappelle la victoire de la Tchèque Krejčíková dans la finale dames, mais dites-nous, Isabelle Langer, où en sont nos Français Nicolas Mahut et Pierre Hugerbert dans cette finale du double?
Eh bien écoutez, vous arrivez au moment où Pierre Hugerbert va servir la première balle de cette finale du double. Ils sont opposés aux Kazakhs Golubev et Bublik. Les Français visent un cinquième titre en Grand Chelem et surtout un deuxième ici, porte d'Auteuil, sur cette terre battue de Roland-Garros où ils s'étaient déjà imposés en 2018. Et bien sûr, ils ont tout le public derrière eux, ils doivent être 3000 dans les tribunes.
Eh ben voilà, en tout cas, ce sont 3000 chanceux. Merci. On fera un nouveau point, j'imagine, plus tard dans la soirée sur RTL. Et Nebin, évidemment, on suivra grâce à vous la finale, messieurs, entre Tsitsipas et Djokovic. Allez, courte pause dans un instant, mon métier, ma passion.
RTL Soir, Vincent Parisot.